Bonjour Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment la libido a-t-elle été inventée? Comment le plaisir sexuel est-il devenu coupable? 2000 ans de christianisme ont-ils définitivement atteint notre rapport au corps qui jouit? 34 ans après sa mort, Michel Foucault est toujours situé en tête des ventes des ouvrages de philosophie. Mieux, il publie encore et des textes inédits, comme le quatrième volume de son Histoire de la sexualité, au titre coupable et symbolique, Les aveux de la chair. Bonjour Frédéric Gros.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes professeur d'humanité politique à Sciences Po Paris et c'est vous qui avez établi l'édition des aveux de la chair de Michel Foucault, publiée chez Gallimard en février dernier. On va le lire ensemble aujourd'hui en partant d'une date, 1984, année de la mort de Foucault, année au cours de laquelle le philosophe travaillait au manuscrit de ce texte, en se demandant si sur la chasteté, le mariage et la virginité, les réflexions avaient vraiment évolué depuis l'Antiquité. Alors pour rappel, au IVe siècle, la virginité est considérée comme un art par les pères de l'Église. Eh bien en 1984, Madonna ne chante pas autre chose. Alors je précise, Frédéric Gros, que être vierge est le titre d'un des chapitres de ce texte, des aveux de la chair.
Tout à fait, c'est un des chapitres, c'est le deuxième chapitre, c'est le pilier central presque, on pourrait dire, et c'est vrai que, vous l'avez dit, la virginité est construite comme un art. Quand Foucault dit que la virginité est un art, il veut dire qu'il ne s'agit pas seulement de continence, il ne s'agit pas seulement de chasteté et d'abstention sexuelle, mais le propre du christianisme, c'est d'avoir développé la virginité comme un mode de vie, comme une technique de vie et surtout comme une modalité de connaissance de soi.
C'est l'enjeu d'ailleurs du texte, c'est de montrer que la sexualité, puisque je le rappelle, les aveux de la chair, est le quatrième volume de l'histoire de la sexualité écrite par Michel Foucault, de montrer donc que la sexualité a pour enjeu la connaissance de soi.
Oui, et c'est vrai que ça se laisse entendre déjà avec cette valorisation de la virginité. Parce que au fond, être vierge, avoir ce mode de vie de la virginité, c'est aussi pas seulement s'abstenir de relations sexuelles, mais tenter d'éviter toute pensée mauvaise, tout désir qui aurait finalement sa racine dans la sexualité, alors même qu'il pourrait se présenter comme désir de nourriture ou comme désir d'autre chose. Donc ça suppose de la part de celui qui pratique cette virginité l'ouverture d'un espace intérieur. Ce que je veux dire par là, c'est simplement qu'à chaque fois, il doit, quand un élan le traverse, quand une représentation le traverse, il doit se demander à chaque fois, mais au fond, est-ce que l'origine ne serait pas un peu libidinale ? De telle sorte que cette virginité qui devrait se comprendre comme abstention de tout rapport sexuel finit quand même par poser au centre même du sujet la question de la sexualité. Et un des enjeux du texte de Foucault, contrairement à la vulgate qui consistera à dire, vous savez, avec le christianisme, on chasse toute sexualité de l'existence humaine, on considère que la sexualité est ce à quoi il ne faut pas penser. Eh bien non, au contraire, le christianisme n'a cessé d'opposer la question de la sexualité au centre du sujet. On ne devient un sujet vraiment sexuel qu'à partir du christianisme. Ce serait un peu la thèse de Foucault.
Ce qui va à rebours de l'idée qu'on se fait du christianisme qui semblerait condamner absolument la sexualité. Il est surprenant de voir que dès lors que Michel Foucault s'intéresse à cette question de la sexualité, il s'intéresse parallèlement au christianisme et à la place que le christianisme a fait la sexualité à travers l'histoire.
Oui, tout à fait. C'est vrai que la représentation la plus courante, elle consiste à dire qu'on aurait eu une antiquité très tolérante au niveau sexuel, un épanouissement des corps sous la grande lumière antique, et que le christianisme aurait refermé de manière bruyante cet âge d'or de la sexualité et nous aurait condamné à avoir une sexualité morose, triste, saturée d'interdits. La grande thèse de Foucault, ce qui est très surprenant par rapport à nos représentations les plus courantes, c'est de dire, ben, au fond, non, les grands interdits, ou plutôt les grandes restrictions, les grands styles d'austérité sexuelle, quand on est marié, ne pas avoir de relations extra-conjugales, valoriser l'abstinence comme définissant un mode de vie parfait, considérer les relations homosexuelles avec quand même beaucoup, beaucoup de réticence, tout ça était déjà présent dans l'Antiquité. Ce que va faire le christianisme, c'est pas d'établir un nouveau code des interdits, parce que c'était déjà présent chez les stoïciens, mais de faire de cette sexualité, vous l'avez dit vous-même, le centre et le point de gravité d'une connaissance de soi. C'est-à-dire que le sujet va se définir comme un sujet de désir, et se connaître, c'est savoir ce qu'il en est de son désir sexuel.
Ça, c'est absolument passionnant, et on le voit résolument contemporain, avec différentes modalités. Un mot avant qu'on en vienne au corps et au cœur du texte, sur cette édition même des Aveux de la chair. C'est un texte, je lisais, qui avait été travaillé, retravaillé en 1984, notamment qu'à l'année de la mort de Foucault. Pourquoi n'a-t-il pas été publié avant? Est-ce qu'il n'y a pas un malaise par rapport à cette publication posthume? Foucault disait refuser toute forme de publication posthume de ses écrits.
Ah oui, ça faisait partie dans son testament, enfin dans ce qu'on en sait. Il y avait une phrase tout à fait lapidaire qui était « pas de posthume ». S'il avait fallu prendre à la lettre cet énoncé, je voulais remarquer qu'aucune des 13 années de cours au Collège de France qui ont été toutes éditées ne serait parue. Ce texte a un statut singulier. Vous avez raison de souligner qu'encore en 84, il le travaillait, ou plutôt il le retravaillait, parce qu'en fait, il l'a fini en 82. Il finit ce texte en 82, et à ce moment-là, Paul Venn lui dit, mais enfin, sortir un volume sur la sexualité, sur la doctrine sexuelle des premiers pères chrétiens, c'est-à-dire 1er, 2e, 5e siècle du christianisme, sans avoir en contrepoint quand même toute la morale et toute l'éthique sexuelle des anciens, pas seulement de la philosophie hellénistique avec le stoïcisme, mais aussi Platon, c'est quand même un peu risqué. Et là, Foucault dit, mais tu as tout à fait raison, je vais me plonger chez les Grecs et chez les Latins. Ça lui prend quand même les deux dernières années de sa vie.
Ce sera le souci de soi.
Ce sera le souci de soi, ce sera l'usage des plaisirs. Et ce volume qu'il donne à taper à Gallimard, Les aveux de la chair, en 82, il a le tapuscrit, il retravaille le tapuscrit, et il n'a pas le temps de retravailler le tapuscrit. Donc, si vous voulez, on ne peut pas considérer ce texte qui a été envoyé pour être tapé chez Gallimard comme étant un texte complètement posthume, une espèce d'ébauche. On publie pas des brouillons. Et si vous le lisez, ça a pas du tout le statut de brouillon. On publie un texte tout à fait complet, maîtrisé et retravaillé par Foucault.
Et très précis. En revanche, il est peut-être plus difficile d'accès que les autres.
Alors, c'est un texte qui est exigeant. Je veux dire par là que Foucault y déploie une énorme érudition. On est même frappé par la multiplicité des références, et pour chaque page, vous avez parfois une dizaine de citations, des choses qui sont parfois même citées en grec, en latin directement. Alors, je veux pas non plus en décourager la lecture, mais c'est vrai qu'il faut, j'allais dire, un peu s'accrocher, mais le jeu en vaut la chandelle, parce que plus on avance dans le texte, plus va se déployer, surtout, on y reviendra peut-être autour de Saint-Augustin, quelque chose comme la matrice même du sujet sexuel dont on a hérité. Parce qu'on est très peu héritier quand même des Grecs au niveau de cette éthique sexuelle. Ce qui a formaté notre morale sexuelle tout au long du Moyen-Âge et avec la contre-réforme, c'est quand même le christianisme.
Et on trouve dans ce livre des réflexions qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et justement sur ce rapport de ce que Foucault appelle le souci de soi en héritage d'une certaine antiquité, d'une certaine pensée philosophique dans l'antiquité, mais aussi une connaissance de soi, un rapport à soi, comment celle-ci se joue dans la sexualité même. On va écouter un texte ensemble, avant de revenir à Saint-Augustin, un texte de Sénèque, qui est issu de son ouvrage De la colère, où il présente ce qu'on appelle l'examen de soi. Comment cet examen de soi a-t-il pu ensuite engendrer un certain rapport à la sexualité que sera le christianisme? Écoutez ce texte, c'est Vincent Schmitt qui le lit.
Chaque jour, il faut appeler l'âme à rendre des comptes. C'est ce que faisait Sextus. La journée écoulée, une fois retiré dans sa chambre pour le repos de la nuit, il interrogeait son âme. « Aujourd'hui, quel mal as-tu soigné en toi? Quel vice as-tu combattu? En quoi es-tu meilleur ?» La colère cessera et s'apaisera si elle sait qu'elle doit venir chaque jour devant le juge. Est-il rien de plus beau que cette coutume de scruter toute une journée? Quel bon sommeil suit cet examen de soi-même, comme il est paisible, profond et libre quand l'esprit a été loué ou réprimandé, quand il s'est fait l'observateur et le censeur de ses propres mœurs. J'use de cette faculté, et chaque jour je plaide ma cause devant moi. Quand on a enlevé le flambeau et que ma femme, déjà habituée à ma manière d'agir, s'est tue, j'examine toute ma journée et je mesure mes faits et dits. Je ne cache rien, je ne passe rien. Pourquoi craindrais-je quelqu'un de mes égarements puisque je puis dire « Prends garde de ne pas recommencer, pour cette fois je te pardonne ». Tu as mis trop de vivacité dans cette discussion. N'entre plus en lutte désormais avec des ignorants. Ils ne veulent pas apprendre ceux qui n'ont jamais appris. Tu as réprimandé celui-là plus vertement que tu ne devais. Aussi tu ne l'as pas corrigé, mais choqué. Vois à l'avenir non seulement si ce que tu dis est vrai, mais si celui à qui tu le dis est capable d'entendre la vérité.
Vous écoutez France Culture, Les Chemins de la Philosophie, nous parlons des aveux de la chair. Aujourd'hui, le 4e volume de l'histoire de la sexualité de Michel Foucault. Ce volume est paru le mois dernier dans une édition établie par le philosophe Frédéric Roque avec nous en studio pour en parler. Aujourd'hui, le texte de Sénèque a ceci de fascinant, Frédéric Roque, qu'il se situe à l'origine même de ce qu'on appelle aujourd'hui l'examen de soi. D'ailleurs, Sénèque emploie cette expression. Ce qui montre qu'il n'a pas fallu attendre l'Église pour faire de la connaissance de soi un devoir, et qu'ici Sénèque nous invite, avant d'aller nous coucher, de passer en revue la journée, nos faits, nos gestes, afin de trouver un bon sommeil, dit-il.
Tout à fait, c'est une première forme de passage en revue, d'examen, et tout le pari de Foucault va être de mesurer la formidable distance entre ce type d'examen, c'est-à-dire cette manière de revenir vers soi pour examiner ses dits et gestes, comme l'écrit Sénèque, est précisément ce qui va se tramer dans les premiers monastères chrétiens, où l'examen va prendre une toute autre forme, et c'est cette toute autre forme qui va définir notre identité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que dans le texte de Sénèque, on voit très bien qu'il s'agit de repérer dans la journée ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu dire, et tenter de voir si c'était véritablement utile, si je me suis pas laissé emporter, et ensuite si ça correspondait aux principes que je m'étais donné. Donc c'est un examen, mais qui va porter sur, j'allais dire, le versant extérieur du sujet. Ce qu'il a fait, ce qu'il a pu dire à l'un ou à l'autre, et ensuite à partir de cet examen très scrupuleux, mais qui relève beaucoup plus, j'allais dire, de l'administration, du contrôle des travaux, véritablement, que de ce que le christianisme va appeler examen, c'est à partir de ça que, précisément, je peux me dire, eh bien, je me suis mis trop facilement en colère, il faudra la prochaine fois que j'apprenne à me mettre moins vite en colère, etc. Je prends maintenant la formule qui va être donnée dans les premiers monastères chrétiens, par exemple chez Jean Cassien, qui est une référence très importante chez Foucault, celui qui va donner la formule de l'existence monastique. Cassien va dire quelque chose comme « À partir du moment où une pensée te traverse l'esprit, fais de cette pensée à chaque fois le support du discours que tu vas adresser à un autre. » C'est-à-dire que tout ce qui nous traverse, comme représentation, image, velléité, pensée, il faut que j'en rende compte à un directeur de conscience, mais que je le verbalise. Donc, principe de verbalisation à un autre et concret qui n'existait pas chez Sénèque. Sénèque est dans son lit, sa femme est en train de dormir parce qu'elle le laisse faire son petit examen, et dans ce souci de soi, si vous voulez, c'est une manière d'accomplir le cercle autour de lui, mais il n'y a pas d'extériorité. Alors que chez les chrétiens, il y a un directeur qui écoute. Et deuxièmement, dit Cassien, et ça c'est peut-être le plus important, chaque fois qu'une pensée te traverse, pose la question de son origine. Par exemple, tu veux entreprendre un jeûne, mais jusqu'à quel point est-ce que tu es certain ou pas que ce jeûne que tu veux entreprendre, arrêter de manger ou moins manger pendant une semaine, 15 jours, ça n'est pas une tentation du diable, c'est-à-dire que ça n'est pas le diable qui te l'inspire afin de pouvoir te fragiliser, te rendre plus vulnérable et que tu deviennes beaucoup plus facilement sa proie. Cette manière précisément dont le christianisme va imposer premièrement le principe de verbalisation, c'est-à-dire il faut dire. Deuxièmement, il faut s'interroger sur l'origine, c'est-à-dire s'obliger à se dire à chaque fois jusqu'à quel point dans ce que je pense, je ne suis pas pensé par un autre. Mmh. Cette espèce de formule, elle nous donne la matrice de subjectivation dont la psychanalyse, vous le savez, comme moi, fera le plus grand bénéfice. C'est-à-dire que ce que tente de repérer Foucault, c'est la manière dont une technique en l'apparence très similaire, on s'examine, va prendre une forme chrétienne qui va précipiter justement le sujet sexuel et le sujet de la psychologie. C'est-à-dire, c'est le moment où s'invente l'intimité psychologique.
Et où s'invente un rapport à soi qui passe par une altérité. En fait, c'est la définition de saint Augustin de l'intimité. En fait, l'intimité, c'est de trouver au fond de soi un autre, et cet autre serait Dieu. Dans ce que vous dites, c'est que chez Sénèque, il n'y a pas d'autre. Vous dites qu'il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas de juge avec Sénèque, alors que dans les écrits chrétiens et Jean Cassien que vous citez, il y a c'est l'imagination de quelqu'un d'autre, un dieu ou un démon.
En fait, c'est ça. Quand vous dites un dieu ou un démon, c'est vrai que c'est pas tout à fait les mêmes choses. Il y a un système de triple altérité, c'est-à-dire qu'il y a Dieu, il y a le démon, c'est-à-dire celui qui pourrait m'inspirer des pensées dont je ne suis pas maître, et il y a l'autre, c'est-à-dire le directeur devant qui je vais verbaliser mes discours pour savoir si leur origine est pure. Et ce que va ajouter Foucault, c'est de dire que ce dispositif-là est un dispositif d'obéissance. C'est-à-dire, espèce d'énorme provocation de Foucault va consister à dire, au fond, c'est à partir du moment où nous avons constitué un sujet à la fois de l'intimité psychologique, du désir sexuel et de la verbalisation indéfinie à un autre, c'est par là que nous obéissons. Comment est-ce que nous obéissons ? C'est en cherchant qui nous sommes que nous obéissons le mieux.
Donc l'introduction de l'altérité se fait sous le rapport de l'obéissance. C'est ça le problème, nous dit Foucault.
C'est ça, c'est-à-dire ce sont des structures d'obéissance. Ce que repère Foucault dans les aveux de la chair, ce sont des dispositifs qui sont en fait des dispositifs politiques. Quand je dis des dispositifs politiques, je veux dire qu'il est question dans ce texte aussi. Pour des raisons techniques, ça a été reversé en annexe, mais il est question de ce qu'il appelle la gouvernementalité pastorale. Parce que ces premiers siècles du christianisme, ce sont les siècles où l'Église s'institutionnalise, où elle devient religion d'État, où elle définit ce qu'on va appeler l'art des arts, c'est-à-dire comment conduire la conduite des autres.
Jean Cassien écrit, puisque vous le citiez, « La vraie discrétion ne s'acquiert qu'au prix d'une véritable humilité ». De celle-ci, la première preuve sera de laisser aux anciens le jugement de toutes ses actions et de ses pensées elles-mêmes, de telle sorte qu'on ne se fie en rien à son sens propre, mais qu'en toute chose, on acquiesce à leurs décisions, et que l'on ne veuille connaître que de leur bouche ce qu'il faut tenir comme bon et ce qu'il faut regarder comme mauvais. Une mauvaise pensée produite au jour perd aussitôt son venin. Avant même que le père spirituel ait rendu son arrêt, le serpent redoutable que cet aveu a pour ainsi dire arraché à son antre souterrain et ténébreux pour le jeter à la lumière et donner sa honte en spectacle, s'empresse de battre en retraite. Et ses suggestions pernicieuses n'ont sur nous d'empire qu'autant qu'elles demeurent cachées au fond du cœur. C'est vraiment la parole qui permet de conjurer le mal. La parole, Frédéric Gros, c'est-à-dire quand même la confession.
La parole, ce que dit ce texte en termes modernes, mais vous allez me dire que c'est complètement décalé et en même temps c'est tout à fait ça, la parole est libératrice. C'est-à-dire que le fait de dire ce qu'on a ressenti, ce qu'on a pu vivre, le fait de le verbaliser va lui ôter toute sa part maudite. C'est ce que dit ce texte. Et j'allais dire, dans le nouveau dispositif de libération de la parole des femmes dont il a été tellement question dans ces dernières semaines, il y avait une reprise de cette très vieille matrice de la subjectivité qui consiste à dire que c'est seulement en disant à un autre ce qu'on a pu vivre, ressentir, qui est le directeur, que cette part mauvaise, eh bien, en sera, qu'on pourra s'en émanciper.
Mais il s'agit de tout dire pour conjurer le mal, non pas pour s'émanciper, au contraire, dans le christianisme.
Tout à fait. Alors, c'est là qu'on trouverait quelque chose comme l'explication d'une formule que Foucault a à la fin de son cours au Collège de France en 1980 à propos de Freud. Il dit « il n'a jamais fait que retourner le gant de l'Église ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce retournement, tous ces dispositifs qui ont été formés par l'Église dans le but de renoncer à soi-même, vont être repris tel quel, mais avec comme but l'inverse, c'est-à-dire se structurer soi-même et advenir à soi-même. C'est la parole de Freud, là où c'était le « je doit advenir ». Avec les mêmes techniques, les chrétiens disaient « eh bien, le « je doit s'oublier au profit de la volonté de Dieu et de la grâce qui doit m'habiter ». Les mêmes techniques vont être reprises avec une finalité évidemment inverse qui sera du côté de l'émancipation.
Alors comment s'articule justement ce lien entre la parole et l'émancipation, entre la sexualité et la confession ? On va entendre Michel Foucault lui-même, c'était en 1977 sur France Culture, expliquer comment l'exercice même de la confession, l'obligation de se confesser dans le christianisme, a pu engendrer l'idée que chacun doit, que l'individu doit découvrir sa vérité dans sa sexualité. Écoutez.
Je connais mal l'histoire des religions, mais il y a tout de même peu, je crois, de religions, il y en a quelques-unes, le christianisme n'est pas le seul, qui impose comme une des obligations absolument fondamentales de l'existence de raconter ses fautes, et surtout, alors ça, le christianisme est seul à imposer cette confession d'une manière aussi régulière, aussi fréquente, la confession hebdomadaire, dans les milieux catholiques, enfin moi quand j'ai été élevé dans des collèges religieux, c'était au moment de la Seconde Guerre, là, la confession une fois par semaine était monnaie courante, avec examen de conscience et bien sûr référence majeure au péché contre la chair comme le péché par excellence. C'est tout de même une espèce de dressage à ne prendre conscience de soi qu'à travers le filtre de la sexualité, pas tout de même un dressage absolument formidable, et je crois que le christianisme a été le seul à l'imposer à ce point. Et alors c'est là où, si vous voulez, le principe de l'aveu sexuel, de découvrir sa propre vérité dans sa sexualité, a été le noyau à partir duquel la science de la sexualité s'est développée.
Mes chers frères, tous les soirs à 6h, je suis là dans cette guérite sacrée, comme un soldat en sentinelle ou comme un chasseur à la gâchon. Et j'attends. Quelquefois, il y a une bonne vieille, des petits du catéchisme, et puis plus rien. Mais je reste quand même. Alors le froid aux pieds me gagne, mes jambes s'engourdissent, et finalement, je m'endors. Eh bien, mes amis, il faut que ça change. Et ça va changer. Mais pour vous qui avez cette chance de pouvoir encore obtenir le pardon et la miséricorde divine, ne soyez pas assez stupides pour refuser le grandiose privilège que nous devons au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. En réalité, ce n'est pas à moi que vous parlez. Moi, ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre pour aller jusqu'au pied du bon Dieu. Alors il juge votre repentir et il m'inspire la pénitence que je dois vous infliger. Et il y a quelqu'un d'autre qui entend votre confession. C'est vous-même. Et ça, c'est le plus important. Le mal que l'on fait, on le fait souvent sans s'en apercevoir. Et quand il faut ensuite le raconter à Dieu, on l'apprend soi-même comme une bien triste nouvelle.
Vous reconnaissez le curé de Cucugnan, Frédéric Gros ?
Oui, je le reconnais. Oui, enfin par. Oui, je l'ai pas connu personnellement, mais je reconnais la voix.
C'était une nouvelle d'Alphonse Daudet de 1866, adaptée au cinéma par Marcel Pagnol en 1968. C'était la voix de Fernand Sardou, hein, qui interprète le curé Martin, qui met en scène exactement ce que vous disiez, l'importance d'un intermédiaire entre l'individu, le fidèle, le croyant et Dieu, cette espèce d'invitation à la confession. Qui est, et c'est ça qu'il faut qu'on voit ensemble, Frédéric Gros, qui est à la fois une invitation à une forme de libération, mais qui paraît surtout, au contraire, une forme de grande coercition. Foucault, dans l'extrait qu'on a entendu, parle de dressage.
Ouais, parce qu'il y a trois choses, enfin deux ou trois choses, si vous voulez. La première, je rebondis sur vos dernières paroles, c'est que l'inquiétude que tente de faire percer Foucault, elle consiste à se dire, mais au fond, la psychanalyse, qui nous permet la libération par la parole, alors même que ce processus de verbalisation tient ses racines d'un dispositif d'obéissance, est-ce qu'il ne faut pas se libérer du dispositif lui-même? C'est-à-dire, est-ce que cette libération par la parole est à ce point porteuse d'émancipation? Alors, c'est vrai que ça devient... si vous voulez, difficile de le dire aujourd'hui, puisque c'est cette émancipation par la parole des femmes qui ont vécu un certain nombre de choses semble tout à fait essentielle et importante. Mais je trouve que cette inquiétude, elle nous est précieuse. Ça, c'est la première chose. En tout cas, c'est une des questions de Foucault. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut pas se libérer même du processus plutôt que de
libération?
Oui,
c'est ça. Se libérer du processus de libération.
Oui, c'est ça. Ce serait à peu près ça. Deuxième chose, c'est que, et ça c'est très bien dit dans l'extrait qu'on a entendu de Foucault lui-même, au fond le christianisme c'est une religion qui pose des obligations de vérité comme toutes les autres religions, c'est-à-dire il y a un certain nombre de contenus de foi qu'il faut avoir. Être chrétien, c'est adhérer à un certain nombre de dogmes et c'est ce qu'on appelle le credo chrétien. Et il faut croire à ceci, à ceci, à cela. Et le propre du christianisme, pour Foucault, sa spécificité géniale, c'est d'avoir doublé ses obligations de vérité, le credo, d'autres obligations de vérité qui vont précisément ouvrir le volume de l'intimité psychologique, c'est-à-dire des obligations de vérité sur soi-même, où il s'agit précisément de se connaître soi-même, mais se connaître en faisant de ce qui nous traverse, c'est ce que je disais tout à l'heure, le support d'un discours qu'on adresse à l'autre. Pourquoi est-ce que je donne cette précision ? Parce que quand je dis se connaître soi-même, on va me dire, mais enfin, Socrate déjà, gnotiséoton, il faut pas, on n'a pas attendu.
Connais-toi toi-même.
Connais-toi toi-même en grec, c'est le frontispice du temple de Delphes, on n'a pas attendu les chrétiens pour donner à la connaissance de soi un rôle tout à fait essentiel. Sauf que ce que va dire Foucault, c'est que cette connaissance de soi chez les anciens était beaucoup plus quelque chose comme une manière d'intensifier la présence à soi, comme on voit chez Sénèque, c'est-à-dire j'ai fait ceci, j'ai dit cela, est-ce que c'est bien, est-ce que j'ai pas exagéré, alors que dans le christianisme va apparaître cet élément du tiers, le directeur de conscience, le maître d'existence, et cette dimension de verbalisation indéfinie. Je dois dire, je dois verbaliser, et structuré évidemment pour Foucault par un rapport, on le sent dans ce qu'il dit, c'est-à-dire la manière dont cette confession, c'est-à-dire la délivrance d'une vérité de soi, joue comme une prise sur les personnes, comme une emprise. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'apparition de ce filtre sexuel. Parce qu'assez vite, se connaître soi-même, on voit bien que dans le texte de Sénèque, il n'y a rien de particulièrement sexuel. Il s'agit de dire, après tout, j'ai parlé à quelqu'un parce que je voulais le tenser, mais enfin, je lui ai parlé peut-être un peu trop fort et c'est complètement contre-productif. Alors que dans la confession chrétienne, l'horizon qui va se définir, c'est quand même, tu as pensé cela, mais est-ce qu'il n'y a pas une libido secrète derrière qui te faisait avoir telle ou telle pensée ? C'est le processus de ce que Foucault appelle la libidinisation.
Alors, et comment vous définissez la libido ici ?
Ouh là là, mais là, il faudrait en arriver peut-être.
Parce que c'est pas que le désir sexuel.
Bah oui, c'est ça, c'est pas le désir sexuel.
C'est le désir en général, tel qu'il échappe à la volonté, on peut le dire comme ça.
On peut le dire comme ça, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut prendre Saint Augustin maintenant?
Ah, vous voulez qu'on convoque Saint Augustin?
Oui, je veux convoquer Saint Augustin.
Très bien.
Parce que c'est
vos désirs sont désordres.
Eh ben c'est comme ça que la libido advient. C'est par Saint Augustin, à partir d'une question. D'un débat théologique qui peut nous apparaître aujourd'hui comme étant complètement baroque, farfelu et décalé, à savoir, y avait-il une sexualité au paradis ? C'est-à-dire, qu'en était-il de la sexualité d'Ève et d'Adam ? Et ça devient même beaucoup plus précis chez saint Augustin et chez d'autres pères de l'Église. Les érections d'Adam étaient-elles volontaires ? Pouvait-il les provoquer ? Déjà, est-ce qu'il y avait une sexualité ? La réponse de saint Augustin, c'est de dire oui, il y avait une sexualité au paradis. Donc, si vous voulez, ça signifie quand même que s'il y avait une sexualité au paradis, la sexualité n'est pas seulement le fruit du péché. Parce qu'on pourrait se dire, après
qu'elle existait
tout,
avant,
ah oui, on pourrait se dire qu'il y avait une existence angélique au paradis, que bien sûr, non, ils ne pensaient pas à la sexualité. Qu'ils avaient la sexualité, que la sexualité est un fruit du péché, donc qu'elle est complètement maudite. Là, on commence en disant, il y avait une sexualité au paradis. Il y a eu le péché originel, ce qui veut dire que quelque chose dans le régime de notre sexualité a changé par rapport à la sexualité que pouvaient connaître Adam et Ève, et cette part maudite de la sexualité, c'est ce qu'on va appeler la libido. C'est-à-dire que la libido va définir ce qui, dans la sexualité, est le prix à payer du péché originel, c'est-à-dire la dimension de sanction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On peut aller un peu plus loin. Saint Augustin, enfin, Foucault repère chez Saint Augustin, c'est un montage très compliqué, mais il y a une telle puissance de lecture chez Foucault qui va aller trouver des choses qui avaient pu échapper à d'autres. Foucault repère que, pour saint Augustin, cette dimension de libido, c'est quoi ? C'est le fait qu'il entre dans notre sexualité, mais au niveau très pratique, une part d'involontaire. Que ce soit au niveau de l'excitation ou que ce soit au niveau de l'orgasme, il entre une dimension d'involontaire. Et cet involontaire, ce qui nous échappe, ce qui échappe à notre contrôle, c'est à la fois la part maudite de la sexualité, c'est la part libidinale, et en même temps, c'est la réponse et l'écho de notre désobéissance à Dieu au moment du péché originel. Ce qui veut dire que la signification de la sexualité, c'est que dans notre sexualité, il entre un élément d'involontaire, excitation ou l'élément coïtal ou l'élément d'excitation, et cet élément n'est jamais que la reproduction de notre désobéissance à Dieu. Ce qui veut dire en même temps, c'est une thèse, j'allais dire, un peu, enfin, qui a même une espèce d'horizon politique, que la sexualité, fondamentalement, c'est ce qui, en nous, désobéit.
Mmh. Mais pourquoi la sexualité, de même que la colère, pour reprendre le titre du texte de Sénèque, toutes les passions, il y a d'autres lieux que celui de la sexualité dans lesquels nous faisons l'expérience d'une dépossession de soi, d'une emprise.
Tout à fait. Mais alors, quelque chose d'autre. J'allais dire que la question est là. Pourquoi la sexualité ? Parce que ça va pas. On a commencé notre dialogue avec la valorisation de la virginité. Vous vous souvenez, l'abstention, la continence, c'est
Madonna.
Très bien, c'est un art de vivre, c'est une modalité de connaissance de soi, c'est une pratique, etc. C'est la perfection même, une manière de vivre la vie céleste sur terre. Voilà. Le propre de saint Augustin, c'est qu'il va faire porter le poids de son examen et le point de gravitation de la morale sexuelle, non pas sur la virginité, même s'il continue à dire, comme d'autres, que la virginité, c'est évidemment formidable et il veut pas la décourager, mais sur la sexualité du couple marié. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire déjà que, à partir du moment où on considère qu'il y avait une sexualité au paradis, ça veut dire qu'elle n'est pas non plus complètement maudite, mais qu'il faut simplement faire appel, qu'il faut être vigilant par rapport à cette dimension libidinale de la sexualité. Je veux dire par là que saint Augustin, en posant le problème spécifique de la sexualité du couple marié, c'est-à-dire de la manière dont, en tant que partenaire sexuel, on doit vivre notre sexualité, il va ouvrir un domaine qui est le domaine de la vie sexuelle et du sujet sexuel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il va subjectiver la sexualité. Il faudrait être un peu précis pour autant qu'on puisse l'être. On voit très bien qu'à partir du moment où saint Augustin pose le problème de la sexualité du couple marié, il ne veut pas, saint Augustin ne veut ni la position des pélagiens qui consiste à dire « mais au fond, puisque la sexualité existait au paradis, eh bien c'est que c'est un morceau d'innocence et il n'y a rien de mal à avoir des relations sexuelles puisqu'elle existait au paradis ». Et puis il y avait l'autre position inverse qui consistait à dire « la sexualité c'est mal, il faut valoriser la virginité ». Saint Augustin essaye de construire un chemin entre deux qui est tout à fait passionnant parce que ça va subjectiver la sexualité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que jusque-là, quand il s'agissait, si vous prenez les médecins grecs, si vous prenez les philosophes grecs, les stoïciens par exemple, Musonius Rufus, etc., quand ils réfléchissaient sur la sexualité et qu'il fallait réguler la sexualité, le problème c'est de savoir quels sont les actes qui sont permis, c'est-à-dire quelles sont les positions qui sont naturelles ou d'autres qui sont pas naturelles, quel est le bon kairos, est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'il y a des saisons dans lesquelles la sexualité est préférable, est-ce qu'il y a des âges dans lesquels ça peut être plus ou moins conseillé, c'est-à-dire que la régulation se faisait par un versant qui était extérieur, la position, l'âge, les partenaires, le statut même des partenaires entre esclaves, hommes libres, femmes, ceci, femmes entre elles, hommes entre eux, tout se posait, toute la question de la régulation se faisait par rapport à des déterminants qui étaient extérieurs. Ce que va inventer le christianisme avec toute cette construction baroque de la sexualité paradisiaque, c'est que la question qui va être posée aux partenaires du couple marié, au mari et à la femme, c'est au moment où tu pratiques l'acte sexuel, bien sûr qu'à un moment, ton excitation, tu ne pourras pas la contrôler. Le moment coïtal, tu ne pourras pas le contrôler. Mais il faut que tu ne l'accompagnes pas d'un consentement intérieur. C'est-à-dire qu'on va rentrer, la régulation devra se faire, mais au niveau d'une intimité psychique qui est en même temps une découverte. Quand je dis que c'est une découverte, c'est qu'on va se mettre à poser des questions qui vont ouvrir un volume dans lequel on va se dire, bah oui, comment faire pour qu'au moment de l'acte sexuel, eh bien, cette excitation, je ne l'accompagne pas d'un consentement intérieur, etc. Et donc, si vous voulez, ça veut dire, c'est ça le moment clé. Ça veut dire que nous devenons des sujets sexuels.
Et ça veut dire que peut-être que plus on se pose des questions sur ce désir-là, peut-être justement plus ce désir s'éloigne. Enfin, en tout cas, c'est toute la question.
Oui.
Vous aviez convoqué saint Augustin. Le voici dans son texte contre Julien. Saint Augustin, donc, l'inventeur même de la libido, qui compare le plaisir que nous prenons lors d'un repas et le plaisir que nous prenons au moment de l'acte sexuel pour s'interroger finalement sur la possibilité de faire l'amour sans plaisir. Voici le texte.
Pendant nos repas, combien de fois ne nous arrive-t-il pas non seulement de méditer intérieurement, mais même de discuter sur les plus graves sujets? Malgré le travail de la mastication et de l'absorption, ne montrons-nous pas un grand empressement à entendre, à parler ou à trouver dans une lecture l'occasion d'apprendre ce que nous ne savons pas ou de nous rappeler ce que nous avons oublié? Mais pour ce qui est de la concupiscence charnelle, si je l'envisage dans ce qu'elle a de légitime, c'est-à-dire la création des enfants, permet-elle, dans l'acte qui lui est propre, de s'occuper, je ne dis pas de la sagesse, mais seulement de toute autre chose? N'a-t-elle pas le triste privilège d'occuper entièrement l'esprit et le corps, et de jeter l'âme elle-même dans une sorte de naufrage? Et quand il lui arrive de triompher des époux, quand ces époux, sans exclure la fin naturelle du mariage, cèdent à la cupidité de la délectation charnelle, l'âme sort de cet état comme on sort du sein des flots, et se trouve heureuse de pouvoir reprendre le cours de ses pensées, de respirer à l'aise et de goûter cette volupté du repentir qui tient de si près, a dit quelqu'un, à la volupté de la faute. L'époux le plus sage, pour peu qu'il aime le véritable bien spirituel, ne préférerait-il pas ou engendrer sans la concupiscence, s'il le pouvait, ou du moins sans en ressentir d'aussi violentes secousses ?
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, et Saint-Augustin qui s'interroge sur la possibilité de faire l'amour sans plaisir. Saint-Augustin qui invente ce qu'on appelle la libido, c'est ce que vous nous disiez Frédéric Gros. Michel Foucault en parle dans le troisième chapitre des aveux de la chair, donc le quatrième volume de l'histoire de la sexualité dont nous parlons aujourd'hui, qui est paru chez Gallimard le mois dernier. Quand on écoute ce texte très précisément, c'est assez amusant de voir comment Augustin lui-même essaye d'interroger l'attitude à adopter au moment de l'accomplissement du devoir conjugal, et de voir à quel point il mise tout sur ce qu'on peut appeler le dualisme, hein, c'est-à-dire qu'il faut vraiment s'éloigner au maximum de ce que le corps nous invite à faire par la pensée.
Tout à fait, c'est-à-dire que le problème devient comment prendre du plaisir sans plaisir. C'est-à-dire que ce moment orgasmique de la sexualité, la séquence coïtale, elle est inscrite en nous. Elle est inscrite en nous et elle est inscrite par ce qu'il appelle justement, ce qu'on a appelé nous la libido et qui dans cette traduction est rendu par concupiscence. Mais c'est la même chose. Et le problème, c'est de ne pas... C'est ça qui est intéressant, même par rapport au débat actuel. La grande problématique actuelle, c'est la problématique du consentement à l'autre. Mais jusqu'à quel point est-ce qu'on peut consentir au désir de l'autre ? On voit que cette problématique du consentement, elle est... originellement inscrite dans le dispositif chrétien, mais pas sous la figure du consentement à l'autre, mais de la manière dont, si on veut se conduire en bon mari, on ne doit pas consentir à ce plaisir qu'on va de toute façon ressentir, mais qu'il ne faut pas accompagner par, j'allais dire, une délectation de l'âme qui prend plaisir au plaisir. C'est ça le problème. Oui. C'est jusqu'à quel point est-ce qu'on peut, dans l'acte sexuel, ne pas prendre plaisir au plaisir. Ce que remarque Foucault de manière, là aussi, c'est une espèce de provocation par rapport à nos habitudes de pensée courante. On a l'habitude de dire, vous savez, dans le christianisme, on justifie la sexualité par la reproduction. Et à quoi sert la sexualité ? Eh bien, c'est la seule manière d'avoir des enfants. Il faut augmenter le peuple de Dieu. Donc, voilà, c'est un instrument de reproduction, mais surtout rien d'autre. Foucault reprend les textes d'Augustin, mais bien avant ça même, ou à peu près au même moment, les textes de Saint Jean Chrysostome, où il montre qu'effectivement les chrétiens disent que c'est une des fonctions de la sexualité, mais absolument pas la plus essentielle. Et même beaucoup de textes disent « c'est tout à fait secondaire, à quoi sert la sexualité ? C'est à sauver l'autre, précisément, de sa concupiscence ». Naît toute la thématique de ce qu'on appelle le debitum conjugale, le devoir conjugal. Pourquoi est-ce qu'il faut faire son devoir conjugal pour éviter à l'autre, eh bien, de devenir trop fragile par frustration répétée, eh bien, trop fragile à sa propre concupiscence et à la luxure.
Mais pourquoi le plaisir est-il un problème en premier lieu?
Parce que le plaisir, ce qui est fixé comme problème, c'est moins le plaisir en lui-même, que ce plaisir qui se définit par ce qui échappe à mon contrôle, c'est-à-dire ce plaisir en tant qu'il emporte l'âme, qu'il entraîne l'âme, et que cet entraînement constitue quelque chose comme l'écho de notre désobéissance à Dieu. C'est-à-dire, le problème du plaisir, c'est qu'il nous fait rentrer dans l'involontaire. Et c'est ce qui fait que quand on reconstruit la sexualité au paradis, on dit bien sûr que Adam avait une sexualité, mais il contrôlait tout. C'est-à-dire l'image que prend saint Augustin, c'est au fond, il se servait de son organe de reproduction comme le semeur se sert de sa main, eh bien, pour aller semer le blé sur les terrains. C'est-à-dire que l'acte sexuel était complètement habité par la volonté. Le propre du péché originel, c'est d'avoir introduit un noyau d'involontaire, et cet involontaire est en même temps une espèce de point de jouissance, on pourrait appeler ça le point de jouissance, et le problème c'est de ne pas prendre plaisir à cette jouissance. Mais en même temps, on ne peut pas y échapper, puisque nous sommes tous nés du péché originel, et c'est comme ça que le péché originel se transmet, puisque nous sommes tous, selon saint Augustin, le fruit d'un coït, c'est-à-dire d'un moment où l'involontaire...
Enfin, selon saint Augustin, pour le coup, là, sur ce point-là, on est quasiment sûr qu'il a raison.
Oui, il a raison, mais en traduisant ce moment de secousse dont il parle dans le texte comme étant quelque chose qui a une signification théologique tout à fait importante.
Ce qui peut donner lieu à des comportements sexuels extrêmement variés. On va encore entendre la voix de Foucault qui parle cette fois-ci de la volonté de savoir, qui est le premier volume de l'histoire de la sexualité, paru en 1976, et qui montre qu'en fait, jusqu'au XVIIe siècle, les sexualités n'existaient pas. Il y avait certains actes qui étaient plus ou moins régis, justement, par la morale, par la religion, etc. Mais que la notion même d'identité sexuelle est très tardive, écoutez.
Tard encore, jusqu'au XVIIe siècle, il n'y avait pas de sexualité anormale. Il y avait des pratiques qui étaient interdites. Bon, et en principe, par exemple, la sodomie était sanctionné de la peine du feu. De fait, les peines réelles n'étaient pas celles-là. Enfin, c'était le geste lui-même, l'acte lui-même qui était interdit. À partir du XIXe siècle, alors on a commencé à inventer des sexualités anormales. Il y a eu l'asexualité spécifique des homosexuels. Ou encore, il y a eu l'asexualité spécifique des enfants. On leur impose un contrôle de type médical, des techniques de correction, de réadaptation, de réajustement, des thérapeutiques, etc.
La notion même de contrôle, de correction, de réadaptation, qui sont des termes qu'emploie Foucault dans cet archive, fait écho à celui de dressage qu'il employait à propos du catholicisme. On peut faire une histoire de la sexualité à partir de cette volonté de contrôle même de cette sphère-là par le christianisme et ensuite par le reste de la société, beaucoup plus tardivement, Frédéric Gros.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'au fond, je pense qu'il s'agit d'une des pentes possibles de ce qu'il appelle la biopolitique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il existe une politique des désirs et peut-être que quand Foucault, vous le savez sans doute, s'opposait ou polémiquait, discutait en toute amitié d'ailleurs avec Deleuze en disant au fond, je trouve que le plaisir est une dimension plus importante et plus révolutionnaire, on pourrait dire les choses comme ça, que le désir dont il me semble que, précisément, il a un poids politique plus lourd. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que...
C'est Foucault ou Deleuze qui disait ça?
C'est Foucault qui répondait. Si vous voulez, Deleuze se présente comme une philosophie du désir. Et Foucault lui répond, moi, j'emploierais moins facilement... Et se présente Deleuze comme une philosophie du désir révolutionnaire, c'est-à-dire la manière de dessiner des lignes de fuite, des devenirs et des modalités d'invention. Et Foucault annonce souvent sa réticence à considérer qu'il puisse y avoir une dimension révolutionnaire du désir lui-même. Pourquoi ? Parce que, me semble-t-il, il voit que dans l'histoire, le désir a été le point par où on a eu prise sur les individus. C'est-à-dire que la biopolitique, ça a été une manière de corriger le désir et on a pris le désir comme cette substance à partir de laquelle on allait pouvoir conduire les personnes. Mais encore une fois, et ça on l'entend bien, vous l'avez dit vous-même, c'est un texte dans laquelle il présente la volonté de savoir, c'est-à-dire on est au point où Foucault parle du premier projet de l'histoire de la sexualité, puisque ce qui est annoncé en 1976, quand il parlait de la volonté de savoir, Foucault annonçait 5-6 volumes qui devaient s'appeler « La mère et l'hystérique », qui devaient s'appeler aussi « La chair et le corps », qui devaient s'appeler « La croisade des enfants » et qui décrivaient les processus de sexualisation au XVIIe, XVIIIe. Et au fond, ce qu'a fait Foucault, c'est de revenir en arrière, et précisément ce qu'on lit aujourd'hui, c'est le moment précisément d'émergence et de naissance de ce sujet sexuel.
Vous voulez dire que ce dernier volume, Les aveux de la chair, en fait, est celui qui repart le plus loin, qui repart de l'Antiquité pour arriver ensuite au christianisme.
Oui, je veux dire que le premier projet était un projet qui devait nous découvrir ce qu'il appelait la scientia sexualis, c'est-à-dire la science sexuelle, la sexualité moderne, et qu'il devait concerner essentiellement les 17e, 18e, 19e siècles. Et peu à peu, en travaillant notamment sur le premier volume qui devait s'appeler « La chair et le corps », eh bien Foucault se rend compte qu'il faudrait revenir au moment d'origine lui-même, c'est-à-dire où se formalisent pour la première fois ces impératifs de pénitence, d'aveu, etc. Et c'est pour ça qu'il est revenu aux racines même du christianisme.
Donc à ceux qui se demandent ce qu'apporte ce dernier volume de l'histoire de la sexualité, c'est votre réponse, c'est ça, c'est qu'il retourne encore plus en amont.
Oui, il retourne en amont pour essayer de décrire le moment d'émergence lui-même. Parce qu'encore une fois, c'est ce qu'on appelle les pères de l'Église, c'est-à-dire c'est la toute première doctrine des pères de l'Église entre le 2e et le 5e siècle. On en est au premier balbutiement du sexe chrétien.
Alors voilà, pour ceux qui s'interrogent sur les liens entre l'invention d'une forme de sexualité, la spécificité du désir sexuel chez saint Augustin et l'importance de la confession et l'importance du dire, hein, ce que vous avez dit, de mettre des mots sur les pensées qui nous traversent, bah c'est peut-être chez les pères de l'Église qu'on connaît peu, qu'on lit mal, qu'on trouvera la réponse. C'est en tout cas ce que semble penser Foucault dans ce texte. Merci Frédéric Gros d'être venu nous en parler aujourd'hui.
Merci à vous.
C'est vous qui avez établi donc l'édition des Aveux de la chair qu'on trouve aux éditions Gallimard. On se quitte avec une chanson qui fait l'éloge d'une notion qu'on n'a pas évoquée, qui est présente dans ce livre, qui est celle de tentation. La tentation par Tom Waits. De la Temptation de Tom Waits jusqu'au journal de la philo de Géraldine Bosna-Savoie. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Et c'est l'heure de retrouver Géraldine Bosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Pour votre journal de la philo aujourd'hui, quel sujet avez-vous choisi Géraldine ?
Eh bien, puisque nous sommes vendredi, je vous propose dès maintenant, à 10h50 passées, de vous arrêter. Vous en avez envie, vous rêvez de ne rien faire, enfin après une semaine de travail, c'est le moment parfait, arrêtez tout. Mais voilà, tout arrêter, est-ce aussi simple et facile ? Faites-en l'expérience ou rappelez-vous simplement votre dernier jour de congé. N'avez-vous vraiment rien fait ? Ne vous êtes-vous pas agité et activé ? N'avez-vous pas bougé ? Comment donc réussir à marquer des arrêts, des pauses, des stations ? Eh bien, c'est tout l'art de s'immobiliser que propose le philosophe Jérôme Lèbre dans un essai.
Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Ce n'est pas un geste prémédité. Ce n'est pas un geste d'ailleurs, mais une absence de geste. Un geste que tu ne fais pas. Des gestes que tu évites de faire.
Avant d'évoquer le livre de Jérôme Lèbre, il faut le rappeler, en littérature, au cinéma et en philosophie, les réflexions et les figures fourmillent pour évoquer cette idée de s'immobiliser. C'est « L'homme qui dort » de Georges Perec que l'on a entendu en version cinéma. C'est Alexandre le Bienheureux. C'est bien sûr Adèle Oblomov de Gontcharov, je le cite parce que je sais que vous l'aimez beaucoup.
Oui.
C'est l'oisiveté de Montaigne ou de Russell, c'est le droit à la paresse de Paul Lafargue ou bien avant, c'est le loisir des temps antiques. Et puis plus récemment, ce sont des revendications de changement de rythme, de déconnexion du monde qui va trop vite, des prières à l'ennui, des envies de repli, ce qu'on entend ou parfois ce qu'on peut lire par « slow life ». C'est d'ailleurs fou, en fait, de remarquer que les pensées et les appels au ralentissement, voire à l'arrêt, dessinent non seulement une définition mouvante et plastique de l'immobilité, mais peuvent sembler aussi de plus en plus nombreux et parfois même pressants. S'arrêter serait devenu une chose à faire, comme on coche une case dans une liste, ou même la chose à faire, la tendance du moment. Mais peut-on considérer l'immobilité comme une tendance à voir le monde autour de nous et comme une tâche de plus à accomplir ? La demande est paradoxale et l'accomplir est encore plus difficile. Car oui, ne rien faire implique en fait un énorme effort. Celui déjà de faire face aux critiques de l'immobilisme, celui aussi de faire face à ce que l'on redoute, être empêché, stoppé, paralysé, que l'on pense par exemple au vocabulaire du travail, on est arrêté ou on a un avancement. Et enfin, le plus gros des efforts, celui de faire face à soi, de rentrer en soi.
C'est toujours très difficile de rentrer parce que dans l'état nomade, vous avez une mobilité non seulement géographique mais sociale incomparable. C'est-à-dire qu'on peut passer une nuit dans la hutte d'un charbonnier à bois dans les Carpates et puis la nuit suivante dans un château parce que la châtelaine vous voit au bord de la route avec sa Daimler et puis elle vous ramasse. Et, bon. Et quand on revient au pays... On est remis dans le, comme une pistache dans le nougat social à une place dont on ne peut plus bouger. Et c'est très difficile de conserver dans l'état sédentaire cette mobilité qu'on avait en voyage.
Ce que dit dans cette archive l'écrivain voyageur Nicolas Bouvier résonne avec tout ce que l'on entend au fond par immobilité, à savoir l'immobilisme ou l'immobilité forcée, celle de la prison, des bancs d'école où l'on est obligé d'écouter, puis tous les Prométhées enchaînés, sans entendre en fait tous les possibles de l'immobilité, comme le rappelle Jérôme Lèbre, celle scientifique, éthique et politique de l'inertie, de la méditation, de la résistance ou du repos. Mais à côté de tous ces possibles de l'immobilité que l'on peut déjà connaître, que l'on peut même déjà avoir pratiqué, à côté de toutes ces activités immobiles qui nous révèlent que ne rien faire, c'est en fait déjà un effort, c'est un engagement, et que paradoxalement, ce n'est pas du tout ne rien faire. Eh bien, à côté de tout cela, de tout ce qui nous pousse à valoriser et à prôner l'arrêt et à nous allonger, eh bien, Jérôme Lèbre, lui, insiste sur une chose, sur une dimension, sur une figure de l'immobilité, être debout. Arrivez-vous à être debout, sans bouger, sans remuer? Avez-vous déjà essayé d'être statique? Eh bien, c'est pourtant la manière, la seule, d'être immobile. Pas de paresse, pas d'oisiveté, pas un loisir, mais l'idée de se tenir, d'être immobile dans le mouvement, sans s'agiter, de se maintenir à soi et pour soi sans vouloir s'absenter de soi, comme quand on dort, comme quand on résiste politiquement ou comme quand on médite par exemple. Et de citer ces mots, statique, 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 soyez statique, le mouvement est statique parce qu'il est la seule chose qui ne change pas.
Merci Géraldine, je retiendrai cette citation de Nicolas Bouvier que vous nous avez fait entendre, être comme une pistache dans le nougat social.
C'est joli.
Mmh, très beau, très parlant.
Alors je conseille de lire ce livre de Jérôme Lèbre, c'est Éloge de l'immobilité, ce week-end par exemple, c'est pas mal, ça vient de paraître aux éditions Des Clés des Brouwers.
Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Et merci à David Pargamin qui a préparé cette émission, ainsi qu'Isis Jourda, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie, Maude Markiewicz, Olivier Bétard qui réalise cette semaine. C'était Myriam Guillot à la prise de son. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle semaine sur la virilité. La virilité est-elle le propre de l'homme ou de la femme ? Ou d'aucun des deux? Et ben c'est la question qu'on se posera chaque jour de la semaine avec Georges Vigarillo lundi, Olivia Gazelle mardi, Philippe Berthier qui vous parlera du baron de Charlus de Proust mercredi, et enfin Sam Boursier qui vous présentera ses propres fleurs du mal, à écrire avec un accent circonflexe bien sûr. D'ici là, pour écouter cette émission sur les aveux de la chair de Michel Foucault avec Frédéric Gros, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie. Vous pourrez la réécouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. On se retrouve lundi à 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.